Yaël Gauze, il est 7h48. Votre invité ce matin est député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller politique du président de la République.
Bonjour Thierry Solaire.
Bonjour Yaël Gauze.
Député Ensemble Citoyen, point d'exclamation, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, puisque vous êtes l'un des maçons de cette maison commune, une bannière qui rassemble tous les partis de la majorité, rassemblement célébré hier soir à la Mutualité. Comment ça se passe Thierry Solaire, un meeting en pleine reprise épidémique avec un variant qui menace? Est-ce qu'on vous a demandé votre passe sanitaire en rentrant dans la salle hier soir?
Bien sûr, on m'a demandé mon passe sanitaire en rentrant dans la salle. Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est que quand je regarde tous les quinquennats depuis 30 ans, c'est quasiment toujours un rétrécissement. Ça veut dire que au dernier jour du quinquennat, il y a moins de monde sur la photo qu'il y en avait au premier jour. Les gens se séparent, les gens se clivent, les gens se divisent. Et au fond, qu'est-ce que j'ai vu hier soir? J'ai vu un grand rassemblement. Et de la droite, du centre, des gens qui sont plus écologistes d'origine, qui sont plus de gauche d'origine. Et au fond, le dépassement politique qui avait été initié par Emmanuel Macron en 2017, il marche à plein. Et c'est très agréable de voir des gens nouveaux qui sont là, des maires, beaucoup. Il y avait le maire de Toulon, Hubert Falco, qui n'avait pas soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il y avait la maire de Beauvais, il y a Christian Estrosi qui nous soutient. Et aujourd'hui, au fond, c'est une formation politique à plus de 300 parlementaires, à plusieurs milliers d'élus locaux. Et qui a ça aujourd'hui en France? Et même, j'allais vous dire, en Europe. Et c'est quelque chose qui marche bien. Alors après, la politique politicienne, ça intéresse pas beaucoup les Français. Souvent, d'ailleurs, il y a de la défiance. Par contre, être unis sur des choses très concrètes pour pouvoir, quand on est aux manettes, les mettre en œuvre, c'est le préalable, à mon avis, nécessaire. C'est bien le cas en cette fin de quinquennat.
Mais il n'en manquait qu'un hier soir, voire deux. Emmanuel Macron et Jean Castex, toujours à l'isolement. Il manquait Emmanuel Macron sur la scène. Est-ce que, on va pas tourner autour du pot, est-ce que c'était le lancement de sa campagne hier soir?
Le président de la République, il est au travail, bien sûr, dans un contexte qu'on connaît, qui est sanitaire, qui est économique, qui est international, qui est difficile. Les crises se multiplient dans le monde entier. Et comme tous les chefs d'État et de gouvernement, bien sûr, son rôle premier, c'est de protéger les Français. Et puis de redresser la France. Concernant Jean Castex, il était là en vidéo, parce que comme vous l'avez rappelé, on lui souhaite un bon rétablissement. Il est atteint par la Covid, malgré ses deux doses de vaccination. Et ça se passe bien. Ce qui montre que le vaccin, quand on est à jour de son parcours vaccinal, il est très protecteur.
À midi, Éric Zemmour sera candidat, enfin, me direz-vous. La droite aura le sien samedi.
Les LR.
Il ne manquera plus, la droite
LR. Les LR, parce que par la droite, elle est largement représentée dans la majorité.
On va en reparler. Il ne manquera plus qu'Emmanuel Macron sur l'affiche. À quel moment vous lui conseillez d'opérer la bascule?
Écoutez, moi, vous avez le mot conseiller, président de la République, il sait mieux que moi, il a été élu président de la République. Ça sera à lui de définir. Moi, ce que je souhaite, et ce qu'on souhaitait tous hier soir, rassembler, c'est être à ses côtés pour un second quinquennat. On souhaite qu'il se représente. Il aura annoncé sa décision au moment où il le jugera opportun.
Mais la machine est prête le plus tard possible en raison de la crise sanitaire?
Nous, notre travail, c'est que la machine soit prête, bien sûr, aux côtés au moment de la campagne présidentielle et au moment où il appuiera lui-même sur le bouton de sa propre candidature. Mais ça, ce sera sa décision.
Éric Zemmour, donc ex-polémiste et bientôt candidat à midi pour faire oublier Marseille. Éric Zemmour qui a tweeté ses regrets hier après son doigt d'honneur. C'était fort inélégant, a-t-il écrit. Est-ce qu'à vos yeux, il est disqualifié pour la fonction de président?
Moi, j'essaie de m'éviter les grandes phrases. En tout cas, je vais même pas commenter ça. C'est pas bien, c'est clair. C'est toujours mieux de s'excuser quand on fait quelque chose qui est pas bien que de ne pas s'excuser. Maintenant, ça me paraît pas être à la hauteur du débat public.
À 17h30 débutera la panthéonisation de Joséphine Baker. Cela n'est évidemment pas réductible à ça, mais faut-il y voir un acte politique de la part d'Emmanuel Macron contre l'extrême droite?
Tout est politique. Tout est politique. La politique, c'est pas un gros mot. C'est pas simplement des sujets électoraux, d'organisation d'élections locales. Tout est politique. C'est un choix qui fait plaisir. Moi, j'entendais en venant à la maison de la radio ce matin le reportage sur Inter de ces collégiens du collège Joséphine Baker à Paris. Ça me fait plaisir de voir ces 30 enfants qui savent que la France, elle est plurielle, qu'elle a son histoire. Et puis cette femme, cette première femme qui rejoint les grands hommes, c'est super.
À l'Élysée, on revendique, ce seront peut-être les mots du président, vous allez nous le dire, l'imaginaire de Joséphine Baker qui entraîne contre l'identitaire qui enchaîne. Est-ce que ça, c'est le début de la campagne bloc contre bloc que vous souhaitez?
Il y a déjà un clivage qui s'organise dans la société française entre une vision purement passéiste et une vision d'avenir. Nous, on est plus du côté de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fiers de notre histoire, et notre histoire, elle est plurielle. Et puis, il y a une vision qui est très de fermeture et une vision d'ouverture. Bien sûr qu'il faut se protéger. des maux du monde, et notamment de ces variants et de ces virus. Mais la solution, c'est pas le repli sur soi, surtout tout le temps, parce que sinon vous terminez dans une paupérisation totale. Et donc bien sûr, il y aura ce clivage-là entre l'ouverture et la fermeture, qui sera à mon avis un des grands clivages de l'élection présidentielle.
Ensemble citoyens, on y revient, au masculin, citoyens, et les citoyennes, elles sont où? On a une tétrarchie dans la majorité présidentielle, j'ai découvert ce mot en préparant l'interview, tétrarchie, c'est-à-dire quatre coprésidents, Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et Jean Castex. Où sont les dirigeantes? La ministre Barbara Pompili était très applaudie hier soir, je crois, à la Mutualité, quand elle a déploré ce manque de parité au sommet.
Bien sûr, moi je suis très favorable dans les actes et pas dans les mots. Je veux vous faire remarquer deux choses, Yael Goz. C'est la première fois qu'il y a un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui est paritaire. Croyez-moi, c'est pas le cas historiquement dans la vie politique française. Il y a autant d'hommes que de femmes au sein du groupe majorité présidentielle de l'Assemblée.
47%. Mais moi, je vous parle du parti de la majorité présidentielle.
Et mieux encore, au gouvernement, c'est la première fois depuis le général de Gaulle qu'il y a un gouvernement où il y a plus de femmes que d'hommes dans le gouvernement de Jean Castex aujourd'hui.
Donc le travail, c'est sur le parti, c'est sur la maison commune alors.
Partout. Après, vous avez des gens qui sont présents dans la gouvernance parce qu'ils sont escalité président de l'Assemblée. Quand un groupe paritaire entre des hommes et des femmes vote pour un homme président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est là. Il se trouve que c'est un homme. Mais croyez-moi, la place des femmes, c'est pas simplement pour faire du joli et ça suffit pas. Vous voyez, voilà. Et donc, moi, j'étais content il y a 20 ans de voir cette loi sur la parité, même si je voyais bien dans la vie politique le côté absurde de faire des quotas. Et pour autant, ça a changé les choses. Aujourd'hui, il y a autant de femmes adjoints au maire, vice-présidents de collectivités qu'auparavant. C'est pas la loi, mais nous, on a veillé, le président de la République en 2017, et on y veillera bien sûr en 2022, à ce que ça soit paritaire à tous les étages. Et le gouvernement, je vous le rappelle, voilà, est composé de plus de femmes que d'hommes.
Les militants LR départagent jusqu'à samedi, à partir de demain, après le dernier débat sur France 2 et France Inter ce soir, départagent les 5 prétendants à la candidature. Dans la presse, vous êtes souvent présenté comme le dynamiteur de cette droite. Pourtant, LR résiste, 2 fois plus d'adhérents qu'au début de la campagne. Christian Jacob disait dans le JDD ce week-end, le président des Républicains, que le leadership était repris à droite. Est-ce que c'est plus dur que prévu pour vous, ce dynamitage?
Non, ils n'ont pas besoin de moi pour s'organiser eux-mêmes en général sur ces sujets. Moi, quand j'écoute les débats avec le regard le plus objectif possible, je trouve qu'il y a soit des outrances, soit des vœux déjà exaucés. Et donc c'est assez étonnant de voir cela. Je vois un ancien commissaire européen qui affuble l'Europe de tous les maux. Je vois Valérie Pécresse qui avait soutenu Alain Juppé et l'identité heureuse, qui aujourd'hui court derrière Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et je vois Xavier Bertrand qui avait quitté les Républicains parce que la ligne politique était trop à droite pour lui, qui préfère Éric Ciotti, Renaud Muselier en réunion PACA. Bon, bah écoutez, chacun s'y retrouvera. Moi, ce que je vois, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont une omnubilation de la frontière. Et cela, on les retrouve beaucoup dans l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour.
Vous avez une préférence parmi les 5?
Non, mais moi, j'ai pas à choisir les préférences des autres. Ce sera les militants qui voteront. Moi, j'avais organisé les primaires de la droite en 2016. Ils étaient 4,5 millions à voter. Aujourd'hui, c'est un rétrécissement formidable. Je vous parlais de rétrécissement dans la vie politique tout à l'heure, que de voir simplement 150 000 personnes. Mais le plus grave, je vous dis, voilà, c'est les outrances, ou d'ailleurs de préconiser des solutions déjà mises en œuvre. C'est quand même pas banal. Ils devraient reconnaître depuis longtemps que ce gouvernement, par le dépassement politique, a mis en œuvre les réformes qui sont attendues par le parti LR depuis des années.
Le sixième candidat LR, c'est Emmanuel Macron?
Non, il n'est pas le candidat, pas du tout.
Non, mais
le
si on vous suit,
LR,
si la droite
non,
était vous.
Non, mais le parti LR, encore une fois, pendant l'élection présidentielle précédente, a proposé des choses. Cette majorité les a mis en œuvre. Et l'incohérence de la vie politique, parfois, est ainsi faite qu'on a vu des gens voter contre ce qu'ils proposaient eux-mêmes. Et ça, ça a été l'essentiel du quinquennat. Donc je trouve ça parfaitement désolant. Nous, en tout cas, on est rassemblés et on souhaite proposer aux Français un projet politique pour l'avenir de notre pays. Pour les Français et pour la France. Pour protéger les Français et pour redresser la France.
Thierry Soler, tout dernier mot.
De cette situation.
Tout dernier mot. Vous êtes toujours député. Votre majorité examine depuis hier l'extension de 12 à 14 semaines du délai pour procéder à une IVG. Quel sera votre vote?
D'abord, c'est bien dans une
démocratie. Contre. D'un mot. Hein.
En deux mots quand même. C'est très bien dans une démocratie qu'on puisse mettre ça au vote. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il faut un grand débat et qu'il faut manier cette loi avec la même précaution que quand on touche la Constitution.
Abstention.
Donc, je pense que, oui, je m'abstiendrai.
Merci beaucoup, Thierry Soler. Bonne journée.
France Inter.